Culture d'Islam par Abdennour Bidar. On est sur France Culture pendant une heure, de 16h à 17h, c'est l'heure de Culture d'Islam. Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce sont les soufis d'Alep qui vont nous accompagner pendant cette heure, avec pour commencer une improvisation de flûte par Ziad Kadi Amin. Aujourd'hui, je vous propose de faire un peu d'histoire du temps présent, de revenir en l'occurrence sur ce qui a conduit en Tunisie à la transition démocratique, une transition démocratique qui a commencé au moment de ce qu'on a appelé les fameux printemps arabes, avec du côté tunisien un acte qui a marqué beaucoup de monde, à savoir cette immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, qui avait été giflé par une policière à Sidi Bouzid. Et pour ce carnet de route de la Tunisie de ces dernières années, j'ai invité dans Culture d'Islam aujourd'hui deux grands connaisseurs de la Tunisie autour d'un livre. J'ai invité donc Nicolas Beau, bonjour.
Bonjour.
Et Dominique Lagarde, bonjour.
Bonjour.
Je vais vous présenter dans un instant. Je vous ai invité pour un livre qui a pour titre « L'exception tunisienne » et qui est sous-titré « Chronique d'une transition démocratique mouvementée ». C'est un livre qui a été publié au Seuil en octobre 2014. Alors évidemment, depuis octobre 2014, de l'eau a encore coulé sous les ponts. Beaucoup de choses se sont passées, on va y revenir. Et donc c'est l'opportunité pour nous aujourd'hui de lier ce qui s'est produit récemment avec ce dont déjà vous avez fait le compte-rendu, ou le carnet de route, c'est le mot que vous utilisez, ce dont vous avez établi le carnet de route dans le livre. Alors avant même d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter tous les deux. Nicolas Beau, vous avez travaillé au Monde, à Libération, et également au Canard Enchaîné. Vous êtes le rédacteur de mondeafrique.com, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce que c'est mondeafrique.com?
C'est un site qui s'intéresse au Maghreb et à l'Afrique subsaharienne, essentiellement l'Afrique francophone.
Et vous avez publié un grand nombre d'ouvrages, 11 livres, c'est ça? 11 livres dont, avant celui-ci, La Régente de Carthage, qui était consacrée à la Tunisie à travers la figure de Leïla Trabelsi.
Qui était l'épouse de
Ben Ali.
Du président Ben Ali.
Du président Ben Ali,
qui était à la tête de la Tunisie depuis 1987 jusqu'à son départ en janvier de 2011. Voilà. J'avais fait un premier qui s'appelait Notre ami Ben Ali,
oui.
en 1999,
oui.
qui était un livre qui essayait de disséquer la nature de ce régime.
De ce régime que, ici, dans ce livre, l'exception tunisienne, vous qualifiez de régime prédateur.
Prédateur, ça, je crois que y a aucun doute là-dessus, que, notamment à travers le personnage de l'épouse du président Ben Ali, Leïla Trabelsi, et de sa famille, qui
cette fameuse région de Carthage
sur toute l'économie tunisienne. Uh-huh. On en reparlera, une des raisons du départ de Ben Ali, du mécontentement populaire, et pas seulement populaire, mais aussi des classes moyennes et de la bourgeoisie.
Dirigée contre son épouse contre et le système qu'elle avait organisé.
Voilà. Alors après, il y a un autre sujet qui est-ce que Ben Ali était un dictateur ou est-ce que c'était un régime ultra-autoritaire, etc.
Oui.
Je pense aujourd'hui que c'était pas exactement un dictateur, c'était un régime extrêmement autoritaire, mais qui ménageait quand même certaines marges de manœuvre pour les opposants, pour un tout petit peu de liberté d'expression. Et surtout, il défendait son image auprès de ses partenaires occidentaux, et à ce titre, il essayait de ménager un peu, donc, à la fois d'un côté son autoritarisme à l'intérieur et de l'autre côté une image pas trop dégradée à l'extérieur.
Donc un autoritarisme suffisamment habile pour ne pas être dictatorial.
Oui, et effectivement ça a très bien marché pendant des années puisque les élites politiques, médiatiques françaises en grande majorité s'accommodaient fort bien de ce régime, notamment au nom d'une lutte contre ce qu'on appelait à l'époque l'intégrisme, représenté par toute la mouvance de Ennahda, le parti islamiste, qui ensuite va arriver au pouvoir en 2012-2013.
Mais c'était
au nom de la lutte contre ces islamistes que menait Ben Ali, alors là, extrêmement brutalement, là, comme un dictateur, c'est-à-dire 30 000 sous son règne ont été emprisonnés, torturés, etc. C'est au nom de la défense des valeurs occidentales contre cet intégrisme que les régimes successifs en France, mais pas seulement, ont soutenu donc le régime de Ben Ali.
Alors, bien sûr. Et une société civile tunisienne prise entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire prise entre cet intégrisme, cet islamisme, cet islam politique, et puis ce régime autoritaire.
Absolument, mais qui malgré tout était relativement ménagée. Elle n'avait pas le droit de constituer des partis, etc. Mais elle avait une certaine marge de manœuvre, notamment elle faisait des déclarations à l'étranger, elle n'était pas systématiquement emprisonnée, elle était quasiment jamais torturée par Ben Ali, et c'est une des raisons, c'est cette société civile qui s'incarnait notamment dans le grand syndicat tunisien, l'UGTT, mais pas seulement, à travers aussi des avocats, des femmes, etc. C'est quand même la constitution quand même de cette société civile qui explique la transition tunisienne de 2011 à 2014, date à laquelle nous écrivons le livre, se passe relativement bien parce que le régime tunisien, contrairement peut-être au régime libyen, au régime syrien, avait déjà, malgré tout, même avec des régimes ultra-autoritaires, celui de Bourguiba puis celui de Ben Ali, réussi à ménager une classe moyenne qui avait quand même appris ce que pouvait être le rapport de force avec un pouvoir autoritaire.
Alors on va entrer dans le détail tout à l'heure de ces étapes justement qui ont constitué la transition démocratique dont vous parlez dans le livre. Avant même de me tourner vers Dominique Lagarde, je voudrais préciser que vous avez encore écrit chez Fayard en 2013 un livre dont le titre déjà est savoureux, hein, Le vilain petit Qatar, cet ami qui vous veut du mal. Vous dites, ou en tout cas c'est je crois la quatrième de couverture, non, ce champion des colloques, on parle du Qatar, ce champion des colloques sur la corruption n'est pas un modèle de vertu quand lui-même lave l'argent des dictateurs. Non, cet État qui a soufflé sur les braises du printemps arabe n'a jamais sponsorisé un islam tolérant, pas plus dans nos banlieues qu'au nord Mali. Derrière la vitrine occidentale, c'est un ogre voix habite qui tient la caisse. Donc vraiment une charge lourde contre le Qatar.
Une charge qui devient de moins en moins une charge quand on voit l'aide que le Qatar et l'Arabie Saoudite ont apportée aux moments les plus radicaux. On rappelle que dans les derniers attentats qu'a connu la France, le Qatar n'a pas eu un mot pour les autorités françaises pour déclarer un soutien, une compréhension, une compassion. Le communiqué de Daesh est sorti sur Al Jazeera, qui est la chaîne de télévision qatari. Et enfin, c'est le prédicateur Al-Qaradawi, qui est le grand prédicateur du Qatar, qui a théorisé la justification des actions kamikazes des musulmans qui seraient heurtés dans leur conviction, dans leur foi. Et ce sont ces enseignements qui sont en partie seulement, bien sûr, mais en partie, qui ont endoctriné une partie de la jeunesse française. Donc je pense que ce n'était pas une charge, c'était simplement un livre assez, je pense, rigoureux.
C'est ça, un constat critique.
Constat extrêmement critique sur la réalité du Qatar, comme j'ai fait avant des livres critiques sur la réalité du régime de Ben Ali.
Alors, je me tourne vers Dominique Lagarde. Pardon de vous avoir fait attendre aussi longtemps avant de vous présenter. Vous êtes spécialiste du monde arabe. Vous avez notamment couvert la Tunisie pendant 30 ans. Hein, et vous avez été grand reporter à l'Express. Vous êtes donc un des deux auteurs de ce livre, dans lequel justement, pour faire le lien avec ce que vient de dire Nicolas Beau, vous montrez tous les deux le rôle qui a été joué par le Qatar, justement, dans le financement d'Ennahda. Et notamment, au moment où Ennahda à participer au pouvoir, hein, avec peut-être des moments différents, c'est-à-dire que vous dites que Ennahda, à un moment donné, a attendu davantage du Qatar que ce que le Qatar a donné.
Oui.
C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé, cette histoire de financement de l'islamisme tunisien par le Qatar?
Je crois simplement que quand Ennahda est arrivé au pouvoir à la suite des premières élections post-révolutionnaires ou post-départ de Ben Ali, ils étaient effectivement persuadés que leurs amis qataris les aideraient financièrement de façon à rester ou à devenir populaires en Tunisie. Ils espéraient pouvoir jouer cette carte-là, montrer qu'ils étaient en mesure de satisfaire les besoins énormes de la jeunesse tunisienne, de la population. Et sauf que cet argent-là n'a pas vraiment été au rendez-vous en réalité. Il n'a pas été au rendez-vous et ils se sont avérés de très mauvais gestionnaires sur le plan de l'économie pendant les premiers mois pendant lesquels ils ont été au pouvoir. Et ça fait partie certainement cela de la déception. Il n'y a pas évidemment pas que cet aspect-là des choses, mais ça fait certainement partie de la déception qu'ils ont très vite suscitée.
Alors j'ai voulu vous inviter aujourd'hui pour ce livre publié, je le rappelle, en octobre 2014. Son titre, c'est L'exception tunisienne, parce que il s'est encore passé beaucoup de choses depuis en Tunisie. Il y a eu des élections, évidemment, et puis il y a eu de sinistres mémoires. C'est notamment ces deux attentats, l'un perpétré au musée du Bardo, qui avait fait 24 morts en mars 2015, et puis celui de la plage de Port El Kantaoui, près de Sousse, qui avait fait 38 morts. Par rapport aux analyses que vous avez développées dans le livre, entre les attentats qui ont été perpétrés, puis les élections, est-ce que vous revenez de façon, je dirais, un peu différente sur vos analyses de l'époque ?
Non, moi je ne crois pas. Je crois que simplement que, on le soulignait aussi dans le livre, ce processus qui est un peu exceptionnel par rapport à ce qui s'est passé dans les autres pays du printemps arabe, reste un processus extrêmement fragile. Extrêmement fragile, et cela pour plusieurs raisons. Il y a des raisons à la fois politiques, économiques et sécuritaires. De toute évidence, la Tunisie est un pays... D'abord, la Tunisie a des frontières avec des pays qui sont eux-mêmes en plein chaos. Je pense qu'elle a notamment à la Libye. Et puis, la Tunisie post-révolutionnaire fait face à des difficultés économiques énormes, ce qui veut dire que tous les problèmes de chômage des jeunes ne sont pas réglés, ce qui veut dire qu'il y a une désespérance d'une grande partie de la jeunesse. Et effectivement, ça ne fait qu'alimenter les extrémistes et les mouvements extrémistes. On a raconté, au fond, ce qu'ont été ces premières années de la transition, mais en soulignant aussi la très grande fragilité de ce processus. Et aujourd'hui encore, ce processus demeure extrêmement fragile, y compris d'ailleurs sur un plan politique. Parce que quand on parle d'une transition démocratique, oui, mais on est encore dans un gouvernement du consensus, je dirais. Et ça n'est pas tout à fait encore ce qu'est véritablement la démocratie. On n'est pas en Tunisie aujourd'hui dans un gouvernement de la majorité avec une minorité qui s'opposerait et qui espérerait à son tour par le jeu de l'alternance accéder au pouvoir. On est encore dans une espèce de vraie fausse unité nationale, de consensus, parce que tous les Tunisiens savent que c'est très, très, très fragile et que c'est à peu près la seule manière de fonctionner aujourd'hui encore.
Cela, vous y insistiez déjà dans le livre en disant que la transition démocratique n'est pas la démocratie. On y reviendra tout à l'heure. Je voudrais revenir là tout de suite sur deux choses que vous avez dites. Tout d'abord, cette désespérance ou cette déshérence sociale, notamment chez les jeunes. Est-ce que, c'est ma première question, mais je poserai immédiatement après une seconde. Est-ce que le parti Ennahda et donc l'islam politique joue un rôle social ? Joue un rôle social qui lui assure un certain coefficient intellectuel, c'est-à-dire est-ce qu'il le joue sur les défaillances de l'État ? Et puis deuxième question, vous parliez du facteur de déstabilisation représenté par la contiguïté ou la frontière avec la Libye. Qu'en est-il aujourd'hui de ce que vous évoquiez déjà dans le livre, à savoir, je vous cite, des liens étroits qui existent entre les branches libyennes et tunisiennes du mouvement Ansar el-Sharia. Donc vous disiez qu'il est lui-même connecté à beaucoup d'autres organisations terroristes en Afrique et au Moyen-Orient. Bon, ce sont deux questions différentes,
oui,
mais qui portent sur...
Oui, moi je vais répondre à la première, peut-être laisser encore répondre à la deuxième. Sur la première question...
Sur les méthodes et la présence de cet islam politique à tendance radicale.
Sur la première question, moi j'ai le sentiment que ce qui a été vrai autrefois ne l'est plus tout à fait maintenant, parce que Ennahda fait partie maintenant de l'État, de l'institutionnel, si vous voulez. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui d'ailleurs est très dangereux, c'est que les révoltes et la désespérance peuvent davantage conduire des jeunes à s'orienter vers des mouvements plus extrémistes que Ennahda. Narda, aujourd'hui, fonctionne comme une espèce de partenaire dans une alliance de facto avec le parti Nida Tounes. Donc, Narda, aujourd'hui, fait partie de la.
Donc, en entrant dans le jeu, voilà, en entrant dans le jeu aussi du compromis politique.
Le parti Narda est complètement dans le jeu du compromis politique. Et je crois que Narda a compris que pour s'inscrire durablement dans le paysage politique tunisien, c'était cette carte-là qu'il fallait jouer. Ce qui explique, en partie en tout cas, qu'ils aient accepté de s'éloigner du pouvoir pendant quelques temps. Mais ils ne sont pas plus aujourd'hui considéré comme une force hors système. Ils sont dans le système.
Oui. Et quant à la fragilité extérieure, c'est-à-dire représentée par cette frontière avec des pays qui sont en plein chaos, on pense notamment à la Libye, qu'en est-il aujourd'hui de ces liens autour de la nébuleuse de Ansar al-Sharia ?
Pour répondre à la question, je vais revenir d'un mot à ce que vient de dire Dominique, à savoir, c'est le paradoxe de la réussite politique tunisienne, c'est que des passerelles, effectivement, pendant toutes ces années de transition, se sont nouées entre le parti islamiste Ennahda, dont les militants étaient emprisonnés pendant les années Bourguiba et les années Ben Ali, réprimés, torturés, et paradoxalement, le parti au pouvoir, Nida Tounes, qui est l'héritier du bourguibisme, et en partie d'ailleurs du benalisme, et qui, dont aujourd'hui le chef, le président Béji, est à la tête de l'État. Et donc, ce sont toutes ces passerelles qui ont permis que la transition, même s'il y a eu des épisodes difficiles, on la qualifie de transition chaotique, mais malgré tout, ils ont toujours réussi à se parler, à trouver des solutions politiques. Mais ils se sont tellement parlé, ils ont tellement trouvé des trucs qu'aujourd'hui, ils gouvernent ensemble. Et que c'est vraiment l'axe entre Béji, l'ancien bourguibiste, et Ranouchi, l'ancien islamiste, qui fait fonctionner la Tunisie. Donc à tel point qu'effectivement, tous les mécontentements populaires ne trouvent plus de canal politique pour s'exprimer. Je fais court, parce qu'il reste une gauche tunisienne qui prétend, etc., mais qui a toujours été éternellement minoritaire en Tunisie. Et donc, comme la crise s'est considérablement approfondie, il faut quand même se souvenir que le départ, une des raisons du départ, on n'a pas de la corruption des familles régnantes, mais c'était aussi la crise économique. Et dans un pays où il y avait beaucoup de diplômés, et donc encore plus de diplômés chômeurs. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que la Tunisie de Bourguiba avait institué cette école pour tous, etc., que Ben Ali a quand même préservé, relativement, ce qui fait qu'il y a eu énormément de diplômés, et de diplômés frustrés au chômage. Et les dernières années de Ben Ali, ces années de croissance à 2-3%, contrairement aux années précédentes, c'était 6-7%. Et donc, ces diplômés chômeurs ont été un ferment de la révolte populaire. Mais malheureusement, cette classe politique tunisienne, extrêmement sophistiquée, a parfaitement réussi la transition politique, mais c'était un écran, c'est un peu désintéressé de la situation du pays réel, de ce qu'on appelle dans notre livre la Tunisie des oubliés. Cette Tunisie des oubliés est de plus en plus oubliée. Et avec la crise, de plus en plus, quand on se promène dans l'intérieur de la Tunisie, les jeunes Tunisiens rêvent de partir en France. Tous, y compris ceux qui sont scolarisés, bien intégrés. Ils ne rêvent que d'une chose, c'est prendre les bateaux et traverser la Méditerranée. Il n'y a pas que les Syriens, les Libyens, etc. Oui. Et donc, cet approfondissement de la crise se traduit aujourd'hui par une vraie fracture entre la Tunisie de l'intérieur et la Tunisie de la côte, la Tunisie de la vitrine, la Tunisie celle qu'on connaît, nous, en France, où on va en vacances, en tourisme, etc.
Auquel on réduit la Tunisie.
Et on réduit la Tunisie. Or, l'autre Tunisie, celle qui a quand même finalement chassé Ben Ali, de certaine façon, même si on explique dans le livre, c'était plus compliqué que ça, parce qu'il y a eu aussi, auprès de Ben Ali, des gens qui ont aidé à son départ, il y a eu aussi l'influence des Américains, etc.
Bien sûr,
c'est cette Tunisie qui, en décembre 2010, cette Tunisie de l'intérieur qui descend dans les rues des villes de l'intérieur, et celle-là, eh bien, la classe politique, y compris islamiste, pendant les années de transition, c'est très largement désintéressé de leur sort. Et aujourd'hui, notamment dans le sud tunisien, qui est proche de la Libye, c'est la région la plus déshéritée. Et aujourd'hui, c'est celle qui est la plus exposée aux difficultés économiques et dont la jeunesse est sans horizon. Et compte tenu, effectivement, de ces frontières totalement poreuses entre la Libye et la Tunisie, il y a toute une partie de cette jeunesse qui voit dans les organisations extrémistes l'espoir. Et comme il y a aussi des tas de relations tribales entre la Tunisie du Sud et la Libye, etc. Donc ça circule, etc. Et aujourd'hui, c'est une espèce de poudrière.
Bien sûr. Alors, pour s'en tenir à ce qui se passe à l'intérieur de la Tunisie, avec justement cette Tunisie de l'intérieur que vous évoquez, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que n'est toujours pas réglé ce qui a généalogiquement donné naissance au printemps tunisien, c'est-à-dire ce que vous appelez dans le livre la révolte ou la révolution de la Tunisie des oubliés.
Ça s'aggrave même.
Ça s'aggrave. Alors, je vais lire un petit passage du livre, et vous me direz si le constat vaut toujours. À propos de cette Tunisie des oubliés, c'est le chapitre 4 de votre livre, vous dites « La révolution de la dignité Donc là, on était juste avant 2011, hein, au moment de 2011. La révolution de la dignité visait d'abord le chômage et l'injustice économique, symbolisée par l'insatiable appétit d'un clan prédateur. Le soulèvement est parti des régions de l'intérieur, celles des laissés pour compte, tenues à l'écart de toutes les politiques de développement, tant sous la présidence d'Habib Bourguiba que sous celle de Zine El Abidine Ben Ali, au profit de la capitale et des régions côtières. Ce sont ces oubliés, jeunes chômeurs, ouvriers des bassins miniers du sud du pays, qui, appuyés par des militants syndicaux issus le plus souvent de l'extrême gauche et du nationalisme arabe, sont à l'origine de la révolution tunisienne. Voilà. Et puis ensuite, vous citez un jeune doctorant qui explique ce sentiment que rien n'est possible, ce sentiment de désespérance. Il dit « Dans la Tunisie de Ben Ali, il fallait payer pour tout ». Payer pour trouver un emploi dans la fonction publique, obtenir une attestation et déposer une demande de bourse, éviter la conscription, avoir une carte d'identité ou toucher les aides, faire entrer et vendre de la marchandise dans les souks, etc. Et, dit-il, la révolte des Tunisiens est aussi le produit de l'accumulation des frustrations, du désenchantement, de l'humiliation et de la crise suscitée par l'absence d'avenir. Je pourrais continuer parce que la citation est très longue. Je m'arrête là.
Oui, si vous voulez, je crois qu'il faut prendre conscience de ce qu'au fond, la révolution, ce qu'on a appelé la révolution tunisienne, ce sont trois révolutions.
Oui.
Il y a d'abord ce que vous venez de décrire. C'est de là que tout est parti. C'est dans la Tunisie des oubliés. C'est une révolte populaire contre un régime prédateur. C'est aussi une révolte populaire contre le chômage. Une révolution pour la dignité.
Révolution
et
pour
puis,
la dignité.
Et puis, embraye ensuite les classes moyennes, ce qu'on peut appeler les classes moyennes, la bourgeoisie, des gens qui, depuis plusieurs années, sous Ben Ali, s'efforcent de militer pour plus de liberté, plus de démocratie. Et ces gens-là descendent dans les rues assez tard, finalement, en janvier, bien après le début des révoltes dans l'intérieur. Et ces gens-là, leur combat, c'est la démocratie parlementaire, la liberté. Ces gens-là ont gagné, en quelque sorte, avec la transition. Cette révolution-là, elle n'est pas achevée, mais elle est largement amorcée. Puis la troisième révolution, celle qui est décrite dans le premier chapitre du livre, c'est la révolution de Palais. C'est le renversement par un certain nombre de personnalités du régime, de Ben Ali, enfin, la façon dont ils arrivent à le convaincre de partir. Mmh. Parce que sans quoi... voilà, je crois que c'est ces trois révolutions qui sont imbriquées. Révolution populaire, révolution bourgeoise, entre guillemets, pour reprendre les vieux schémas, et révolution de Palais. La révolution de Palais, au départ, ceux qui l'ont initiée souhaitaient simplement faire partir Ben Ali et en gros garder le système. Le résultat n'est pas tout à fait ce qu'il espérait. La révolution bourgeoise voulait une démocratie parlementaire. Elle l'a avec les bémols qu'on peut mettre, compte tenu des fragilités qu'on évoquait tout à l'heure. Mais la révolution, la révolte populaire, celle qui est partie de l'intérieur, elle n'est pour l'instant loin d'être satisfaite. Et la situation économique et sociale s'est considérablement aggravée depuis la révolution, parce que les révolutions ont un coût, celle-ci a un coût, et les choses continuent à s'aggraver avec les attentats qui font fuir les touristes, etc.
Oui, oui. Une révolution bourgeoise, on croirait entendre les révolutions françaises du 19e siècle.
J'emploie ce terme à dessein, parce qu'au fond, ce qu'on a vraiment vu, ces jeunes chômeurs, c'est de l'intérieur d'abord descendre dans la rue, se faire tirer dessus, et puis on a vu dans les rues de Tunis les avocats, les militants des droits de l'homme.
C'est pas la même Tunisie, c'est pas les mêmes aspirations, les mêmes revendications.
Eh bien, la réussite de la révolution ou du printemps tunisien, c'est que ces deux aspirations sont à un moment donné aller dans le même sens. Je suis pas sûr que ce soit encore le cas aujourd'hui.
Alors, elles sont allées dans le même sens, mais l'une a reçu une satisfaction au moins relative, voilà, tandis que l'autre est restée à sa frustration.
L'autre est restée à sa frustration, tout à fait.
Voilà. Nicolas Beau.
Oui, la strate supérieure, celle des conseillers des proches de Ben Ali qui s'est retournée contre lui, était quand même très encouragée dans ce sens par les Américains. C'est le début du printemps arabe et les Américains pensent que des régimes comme ceux de Ben Ali ou Moubarak ne doivent plus être soutenus. Parce que
vous l'expliquez dans le livre, vous dites que la diplomatie américaine était beaucoup plus sévère dans ses jugements que la diplomatie française, par exemple, à l'égard du régime de Ben Ali.
Oui, absolument. Et c'est sûrement, elle a joué un grand rôle dans les journées qui ont précédé le départ de Ben Ali. Ça, c'est incontestable. Donc, c'est trois forces qui ont poussé dans le même sens. Alors, pour revenir à cette Tunisie des oubliés, la différence avec les années Ben Ali, c'est qu'il y a eu un espèce d'affaissement du système répressif qui a été comme une grande réussite de Ben Ali. Ben Ali était un grand flic, à la fois dans le renseignement, à la fois dans la mise en place de plusieurs réseaux parallèles de police, etc. Et il surveillait, ce qui faisait que la frontière avec la Libye était extrêmement bien contrôlée. Donc il y avait de l'économie noire, de l'économie parallèle, mais elle était contrôlée. Les flics, les douanes, etc. prenaient leur bakchiche, etc. Mais c'était
négocié. C'est l'avantage dramatique de l'autoritarisme.
Voilà, et c'était en gros, vous pouvez faire vos petits trafics avec les Libyens avec lesquels Kadhafi était très bien. Il ne faut pas oublier l'axe... de dire de Ben Ali Kadhafi, extrêmement, extrêmement proche. Et vous pouvez faire vos petits trafics, mais vous versez votre dîme à l'appareil d'État, et parallèlement vous surveillez tout ce qui ressemble à un salafiste et vous nous le. Et c'est un formidable pays d'indique, la Tunisie. Faut pas l'oublier. Bon, là, tout ça s'est affaissé, les contrôles sont tombés, et aujourd'hui cette espèce de mafia qu'on appelle Trabendo salafiste, c'est-à-dire qu'à la fois qui font du Trabendo sur une grande échelle, on estime qu'aujourd'hui il y a un million et demi de Tunisiens qui vivent de ce marché noir, le marché du fer, le marché du béton, le marché de Libye, arrive toutes sortes de cacailleries qui est venue de Chine via toutes sortes de
circuits. Donc une économie parallèle.
Une économie parallèle absolument fantastique, sur laquelle veillent des espèces de gangs qui sont à la fois, bon, le nerf de la guerre c'est le Trabendi, et la coloration elle est salafiste. Donc et aujourd'hui, il y a un énorme problème pour l'État tunisien qui aujourd'hui d'abord n'a plus de sous, n'a plus d'argent, et très peu aidé, on pourra dire un mot, très peu aidé par les Européens et les Américains, alors que c'est un maillon indispensable de la
stabilité de la région.
Et pour nous aussi. Parce que le jour où on a éradiqué Daesh en Syrie, c'est croisé, là. De Daesh, ils vont venir en Libye, ils viennent déjà. Et ça va être une base de repli. Et après, il y a quoi pour eux? Il y a où ils prennent les bateaux pour venir en Europe, ou ils vont en Tunisie.
Oui, donc on a intérêt à avoir une Tunisie stable.
Et on les aide extrêmement peu. Mais surtout, cet État, on pourrait dire un mot, de l'appareil répressif aujourd'hui en Tunisie qui est complètement déliquescent et qui n'est plus en ordre de marche. Et donc l'État n'a plus les moyens de réguler ce marché noir qui est aujourd'hui un vrai cancer pour la Tunisie. Et ça revient beaucoup dans les déclarations des responsables tunisiens, de ceux qui ont vraiment le sens de l'État en Tunisie. Ils disent mais il faut restaurer l'État.
Dominique Lagarde, sur cette question de la restauration de l'État et de là aussi quelque chose qui menace sérieusement à la fois le processus démocratique, la justice sociale, l'installation d'une véritable distribution des richesses, la possibilité pour les jeunes d'accéder.
Je crois que c'est le problème, c'est que le redémarrage économique n'a pas lieu et qu'on voit pas comment il pourrait avoir lieu dans le climat actuel. La Tunisie est un pays qui est extrêmement et très lourdement dépendant du tourisme. Or les attentats de Sousse et du Bardo ont fait fuir les touristes. Aujourd'hui, les hôtels sont vides. Donc, on avait coutume de dire que la Tunisie de la côte allait bien, que celle de l'intérieur allait mal. Maintenant, le problème, c'est que c'est celle de la côte aussi qui est en train d'aller de plus en plus mal. Et tant que ce problème-là n'est pas résolu, tant qu'il n'y a pas de redémarrage économique de ce pays, la situation reste et restera très, très fragile.
Oui, deux chiffres. 15% de la population tunisienne, emploi direct et indirect, vit du tourisme. Et 80% des hôtels sont quasi fermés aujourd'hui.
بسم الله الرحمن الرحيم قف واستمع ذكر من أنواره لمعت في الكائنات كشمس في السماء طلعت أصغال مدح نبي جل خالقه لولاهم ما كانت الأنوار قصة طعن
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
مذ جاءنا المصطفى بان الأمان لنا والكائنات من الأنوار قد مليت يا مولد المصطفى شرفت مسمعنا بقالة ذكرها تحلو إذا تليت
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
يا مولد المصطفى هيجت مهجتنا كسوتنا
Alors, dans cette généalogie que vous faites de la transition démocratique tunisienne, il y a un moment sur lequel vous insistez particulièrement, c'est le moment où c'est le titre de votre chapitre, les frères musulmans étaient au pouvoir. Alors là, vous nous parlez longuement d'Ennahda, vous nous parlez longuement également de la personnalité complexe, ambiguë, difficile à cerner exactement, de Ranouchi. Hein. J'ai oublié son prénom, Rached. Rached Ranouchi.
Oui, à ne pas confondre avec
oui, parce que c'est
Ranouchi.
Ça.
Le premier Premier ministre.
Le premier ministre de la transition. De la transition.
Voilà, alors...
Mais je pense que l'histoire retiendra le nom du chef d'Ennahda.
Bon, voilà, on va parler de lui. Vous dites dans le livre, par exemple, quelque chose comme ça à son sujet. Si la pensée des frères musulmans constitue le socle idéologique du mouvement islamiste tunisien, Ranouchi est l'un des penseurs de ce courant qui ont le plus réfléchi à l'émergence d'un modèle susceptible de concilier modernité. Alors ici, ça veut dire quoi modernité? Vous l'explicitez, notamment les droits de la femme et les libertés publiques et identité arabo-musulmane. Bon, oui. Alors ça, il a essayé de concilier.
Oui, alors ça, c'est une chose qui choque souvent quand on dit ça. Mais
et oui, c'est pour ça que je pointe le doigt là-dessus.
L'une des chances de la Tunisie dans cette transition, c'est probablement d'avoir eu, on va dire, l'un des mouvements islamistes les moins bêtes du monde arabe. C'est-à-dire que oui, Ranouchi est un penseur qui s'est pas contenté d'avaler la pensée des frères musulmans et de la
recracher telle quelle.
Il y a une vraie réflexion, effectivement. Ça ne veut pas dire que tout Ennahda soit sur cette ligne. Hein. Il y a aussi au sein de Ennahda un certain nombre de durs ou de faucons ou de gens qu'on verrait tout à fait, par exemple, chez les frères musulmans égyptiens, voire chez les salafistes. Mais Ranouchi, oui, il a une pensée. Il a essayé de penser, au fond, ce qu'on disait tout à l'heure, la manière dont un mouvement islamiste peut, dans un pays pluriel, garder, avoir et surtout acquérir sa place au sein des institutions, au sein de l'État, ce qui veut dire cohabiter avec des gens qui pensent différemment, avec les sécularistes, etc.
Donc il aurait accepté la règle de base du pluralisme démocratique, dans une certaine mesure
Dans une certaine mesure, je pense que l'objectif de Ennahda, c'est d'être et de rester un acteur dominant sur la scène politique tunisienne, et qu'ils savent très bien qu'en tout cas, dans le temps présent, ça n'est possible qu'en acceptant l'idée que la Tunisie est un pays pluriel. Alors, c'est vrai que quand ils ont accédé au pouvoir au lendemain des premières élections qui ont suivi le départ de Ben Ali, ils se sont un petit peu cru arriver. Ils ont cherché à placer leurs hommes partout et à régenter tout le pays, à mettre le pays au pas.
Avec une inexpérience totale.
Mais ils se sont aperçus qu'il n'y arriverait pas comme ça, que la société tunisienne était diverse, que la société civile ne se laissait pas faire. Et je crois que voilà, il y a une réflexion qui les a conduits à penser que pour peser sur l'avenir de ce pays, pour encore une fois exister au sein du système tunisien et y avoir toute leur place, dans le temps présent, il était stratégiquement plus intelligent.
Oui, alors on aurait tout à fait. Alors on aurait un islam politique qui se serait converti, façon de parler bien sûr, qui se serait converti à un certain réalisme.
Oui, c'est du pragmatisme.
Voilà, c'est du pragmatisme, du réalisme. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il y a une véritable acceptation de ce qu'on appelait tout à l'heure le pluralisme démocratique? Beaucoup en doutent. Alors je vous livre par exemple le jugement.
Ouvert, pour le coup, oui.
Comment?
Dans le débat est ouvert. Je pense
le
que
débat
ça...
est ouvert. Alors je vous donne un exemple. Bon, c'est... vous connaissez. C'est sans doute Mohamed Talbi, le grand islamologue tunisien, etc., qui se définit comme un penseur libre en islam, quelqu'un qui est une personnalité de premier plan, président de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts jusqu'en 2012. Et on sait qu'il a sur M. Ranouchi des jugements qui sont beaucoup plus sceptiques. Hein. Il a dit par exemple, on dit que cet homme a évolué, mais j'ai des doutes concernant son évolution. Il a évolué du rejet total de la démocratie à l'appel à la démocratie, mais je considère que cet appel n'est pas sincère parce qu'il est salafiste et le salafisme et la démocratie ne se rencontrent jamais.
Alors, le problème de la sincérité de Ranouchi, c'est un autre problème, mais sur un plan pragmatique.
Oui, on ne parle pas des intentions ou de l'intériorité.
Sur un plan pragmatique et tactique, Ennahda est arrivé à la conclusion qu'actuellement, ça ne sera pas forcément vrai mais qu'actuellement, leur intérêt, bien compris, est de cohabiter avec d'autres forces politiques. Et l'un des éléments qui a permis que le dialogue national débouche sur cette nouvelle constitution et sur les élections de 2014, ça a été cette rencontre à Paris entre Béjika et Desepsi et Ranouchi, au cours de laquelle Béjika Desepsi a très clairement dit à Ranouchi qu'il lui semblait normal que la famille islamo-conservatrice ait toute sa place dans le système tunisien. Et en fait, ce que voulait entendre Hanouchi, c'était ça, c'était d'être accepté par l'autre partie. Et ensuite, je pense qu'effectivement, le Narda n'a pas perdu l'espoir que cette stratégie un jour s'avère suffisamment payante pour que une écrasante majorité des Tunisiens veuille bien les suivre. Mais on n'en est pas là.
D'accord. Si je peux dire un mot, je pense que c'est un formidable opportuniste et pragmatique, mais dans les classes politiques de tous les pays, il y en a beaucoup.
Oui. C'est du machiavélisme.
Voilà, et bon, et que certainement, il a évalué le rapport de force, notamment en 2013, quand il a vu Morsi, qui était un autre frère musulman, chef d'État en Égypte, tombé sous les coups des militaires. Et il s'est dit qu'il voulait pas finir comme Morsi. Et d'ailleurs, les Américains lui ont bien fait comprendre que si ça continuait, il allait finir comme Morsi. Donc, la tentation d'hégémonie dont parlait Dominique, bon, il a dû la tempérer. Mais il faut quand même dire aujourd'hui que c'est l'homme fort de la Tunisie, incontestable. Pourquoi ? Parce qu'il a un charisme formidable. Moi, c'est un tribun. Moi, je l'ai entendu à des meetings. C'est un formidable tribun. C'est un grand diplomate. Il n'y a pas mieux que lui pour aller voir les diplomates américains, français et leur faire des tours de passe-passe et les séduire. C'est extrêmement séduisant. C'est un grand dialecticien qui a été quand même confronté au nasserisme. Il a vécu au Caire à la belle époque, au baasisme. Il a vécu en Syrie, etc. Donc il n'est pas rentré dans l'idéologie frère musulman d'un coup un seul. Bon, et de ces frères musulmans, il a retenu un grand principe qui est effectivement le sens du rapport de force. Et il en joue. C'est un formidable tacticien. Alors je crois qu'après Mohamed Talbi sur l'idéologie profonde, je pense que Talbi a raison et que Hanouchi serait seul au pouvoir soutenu par les tous les alliés de la Tunisie et il imposerait un régime extrêmement salafiste. Bon, ça ne le gêne pas, mais là on fait une espèce de psychologie de bazar, ce qui est sûr, c'est que Hanouchi comprend les rapports de force, analyse et les comprend. Et dans le système politique tunisien, c'est quand même ce qui a permis à ce système politique de se développer comme il l'a fait, c'est-à-dire le seul pays du monde arabe qui va quand même vers des formes de démocratie et de pluralisme. La grande lacune de Hanouchi, c'est d'avoir fermé les yeux sur ceux qui finalement l'ont, à l'époque de Ben Ali, qui croyaient en lui, qui est cette Tunisie des oubliés dont on parlait. Ils ont tourné le dos, et même sur le plan purement alimentaire, ils ont participé à la corruption ambiante qui a été dérégulée en Tunisie. Il y a une corruption vraiment épouvantable qui avant était cantonnée au clan présidentiel, mais maintenant c'est vraiment à tous les étages. Et les islamistes se sont vautrés dans la corruption, et c'est ça vraiment qui, à mon avis, leur coûte extrêmement cher aujourd'hui, et qui fait que toute une partie de l'opinion tunisienne ne croit plus dans la capacité des islamistes à changer le système, ce qui fait qu'ils sont attirés, comme on disait tout à l'heure, par des forces extrêmes. Ils sont dans le système.
Ils sont dans le système. Alors justement, à propos de cette famille que vous avez appelée tout à l'heure, Dominique Lagarde, la famille islamo-conservatrice, je voudrais qu'on ait quelques précisions. Donc au sujet, au-delà du cas Hanouchi, c'est-à-dire au-delà du personnage et de sa complexité, je voudrais qu'on ait quelques précisions sur cette famille islamo-conservatrice à deux niveaux. D'abord, quelle est sa ligne idéologique ? Je crois qu'elle est libérale. Je crois que sur le plan des mœurs, ce qui est prévisible, elle est conservatrice, voire ultra-conservatrice.
Il n'y a pas une seule ligne, en fait.
Il n'y a pas une seule ligne ?
C'est un terme. Le terme islamo-conservateur, il est très large. Il regroupe différentes tendances. Ça peut aller jusqu'à... Il existe certains islamo-conservateurs, certains Nardaouis notamment en Tunisie, qui sont véritablement des islamo-démocrates. Il en existe pas beaucoup, mais il y a des voix qui sont
démocrates ou démocrates musulmans.
Il y a des gens qui considèrent que Narda ou qu'un parti islamiste dans le monde arabe pourrait être un parti un petit peu l'équivalent de la démocratie chrétienne.
Oui, c'est ça. Il y a des gens
oui, qui considèrent qui sont sincèrement adeptes de ce modèle-là. Ça, c'est disons l'aile la plus ouverte. Ils sont pas très nombreux, mais ils existent. Et puis après, il y a à peu près toutes les tendances jusqu'aux salafistes convaincus, purs et durs. Donc, alors effectivement, après les points communs, en général, ils sont en général partisans de l'économie de marché. Ça, c'est ce qui, par exemple, fait qu'avec Nida Tounes, de ce point de vue-là, ils s'entendent bien.
Oui.
Ils sont très conservateurs pour tout ce qui est mœurs, morale. Ça, on l'a vu avec tous les débats qui ont marqué les premiers mois de la transition sur les atteintes au sacré, et qui ont provoqué ce bras de fer avec la société civile. C'est la première période du gouvernement Narda en Tunisie.
Attendez, donc libéraux et conservateurs sur le plan des mœurs, est-ce qu'on peut parler d'islam de droite ?
Après, c'est très difficile de mettre des termes comme gauche-droite. Moi, j'aurais tendance, effectivement, à si on veut vraiment choisir à utiliser le terme de droite, mais c'est pas très adapté non plus, pas très très adapté non plus à ce.
Bah, c'est
ce
quand même raccord avec des caractéristiques de la droite un peu transversale, transnationale, qu'elle soit américaine
si, oui, on peut si on veut utiliser ce terme-là. En tout cas, c'est plus juste que gauche, ça c'est sûr.
D'accord.
Voilà, et puis on va jusqu'au plus extrême.
Bien
donc
sûr,
vous
bien
avez.
Sûr. Et justement, à propos de ces plus extrêmes,
un
vous
mouvement
dites
qui est divisé, voilà. Et avec des multiples tendances, et puis Ranouchi qui est au-dessus. Et jouent un peu les uns les autres.
Voilà. Et au moment où Ennahda était aux affaires, vous parlez, c'est l'un de vos chapitres, d'une guerre de religion au sommet de l'État, parce que c'est un mouvement qui est très très complexe et très divisé contre lui-même. Vous dites, je vous cite, et après donc je vous laisse embrayer là-dessus, confrontés à l'épreuve du pouvoir, les islamistes ont été tiraillés entre le pragmatisme de certains de leurs dirigeants et une base très salafiste. Et vous dites que sont nombreuses et subtiles toutes les lignes de fracture qui traversent la mouvance, et des lignes de fracture qui sont à la fois historiques, idéologiques, régionalistes aussi.
Oui, parce que historique, par exemple, y avait ceux qui s'étaient exilés, comme Ranouchi, qui n'ont pas connu la prison et la torture. Il y a ceux qui étaient dans les geôles de Ben Ali. Donc,
c'est pas la même histoire.
Le régionalisme est extrêmement fort. Mais je crois qu'il y a quand même deux choses qui les réunissent, tous, ou presque tous. C'est une chose, c'est le modèle de l'AKP. Le modèle turc, ce qui est un modèle comme très très prégnant. Je pense plus que la démocratie chrétienne, parce qu'elle est quand même un peu moribonde même chez nous. Donc le modèle fort, et c'est un modèle qui réussit actuellement, y compris dans une forme de nationalisme, parce que c'est très intéressant. De toute façon, les islamistes tunisiens ont récupéré le nationalisme comme les islamistes turcs.
Libéralisme, conservatisme des mœurs et nationalisme. C'est le troisième élément idéologique important.
Et là, ils volent au fond ce nationalisme au bourguibisme, hein, qui était quand même l'idée. Bon, d'autant plus avec la fracture. Les fractures aujourd'hui que connaissent la Tunisie nord-sud notamment, bon, ça revient très fort quand même, ce problème de la nation tunisienne, l'identité tunisienne. Et puis le deuxième facteur d'unification, c'est quand même Ranouchi qui a toujours réussi, contrairement à Nida Tounes du président actuel, Belgique qui est en train d'éclater en mille tendances et c'est des guerres absolument intestines, etc. Effectivement, au sein de Ennahda, ce sont des tendances différentes, c'est une espèce de centralisme démocratique, c'est-à-dire tout le monde s'exprime et quelquefois pas du tout dans le même sens. Mais quand Ranouchi siffle la fin
de la mêlée, de la bagarre,
jusqu'à présent, on a parlé, combien de fois on a parlé du fait que l'ancien premier ministre Jebali allait créer un parti plus moderniste, technocratique et tout, il l'a jamais fait. Parce que là, c'est un formidable tacticien qui réussit à fédérer tout le monde.
Oui, en tout cas, ils ont certainement beaucoup plus le sens de l'unité au sein de leur parti, en dépit de leurs nuances ou de leurs divergences internes, que de l'autre côté, du côté des sécularistes ou modernistes de Nida Tounes.
Oui. Alors, pour quitter quelques instants le cas des islamistes et de l'idéologie de Ennahda, je voudrais qu'on discute maintenant d'un autre moment de votre livre, dans votre livre dont je rappelle le titre, L'exception tunisienne, qui est un carnet de route de toutes les années de la transition démocratique, jusqu'à la période en tout cas de 2014, avec un moment sur lequel vous arrêtez particulièrement, qui est le moment de la constituante. Vous parlez de la constituante ou de l'éloge de la lenteur. De l'éloge de la lenteur, c'est pour...
ils ont pris leur temps.
Voilà, et rendre compte de toutes les tractations, de toutes les négociations qui se sont cristallisées, et c'est là-dessus que je voudrais vos explications, qui se sont cristallisées sur un certain nombre de points, parmi lesquels j'ai retenu quelques-uns dans ceux que vous thématisez. S'agissait-il, au moment de chercher une constitution, de constitutionnaliser la charia ou pas ?
Ça a été le premier débat.
Débat.
Chronologiquement, ça a été le premier débat.
Quid de la liberté de conscience ? Quid des atteintes au sacré ? Quid des droits des femmes ? Tout cela pour arriver à une solution, enfin en tout cas, pour ce qui est de la référence au religieux, à une solution qui est une solution, j'ai envie de dire mi-chèvre, mi-chou, c'est-à-dire une solution un peu ambiguë, qui a donné le fameux article premier qui est...
L'article premier, il n'est pas issu des travaux de cette constituante. Non, il a été rédigé par Bourguiba.
Oui, il a été... Oui,
rédigé, c'est-à-dire que c'est vraiment un article qui a été rédigé par Bourguiba. Finalement, les constituants se sont dit que le plus sage était de ne pas le modifier.
Alors, je le lis. La Tunisie est un pays libre, indépendant et souverain, sa religion est l'islam, sa langue est l'arabe et son régime la République.
Voilà.
Mais l'islam n'est pas la religion de l'État. Il y a eu tout un débat là-dessus.
Voilà.
Et en fait,
mais c'est byzantin tout ça. Parce que
les balanciers, d'abord étaient assez loin dans la l'islamisation, voire la salévisation de la Constitution jusqu'en 2013. Et le balancier est reparti dans l'autre sens. Et aujourd'hui, c'est vraiment une constitution, grosso modo, qui est pour la sécularisation de la société. Mais alors, il y a deux explications. Il y a une qui est la lutte de la société civile, tunisiennes, des juristes, des avocats, des femmes, etc., des manifestants qui se sont battus pied à pied. Et puis, je reviens à ce qui s'est passé en Égypte, et oui. Où là, les islamistes ont compris qu'il ne fallait pas pousser le bouchon trop loin, sinon ils perdraient tout. Alors, il y a le débat. Qu'est-ce qui a pesé dans un sens? Qu'est-ce qui a pesé dans l'autre? Mais je pense que tout a pesé dans le sens que... Et aujourd'hui, on peut dire que ce qui s'est passé en Tunisie dans ces années-là, qui est vraiment formidable, c'est qu'il y a eu une sécularisation de la société, via notamment tous ces débats constitutionnels, où les valeurs laïques l'ont finalement emporté. Sécularisation qui avait été imposée d'en haut par Bourguiba, et qu'aujourd'hui, la société tunisienne a conquis de haute lutte à travers ces débats constitutionnels.
Enfin, dans votre livre, vous dites, ce texte, à propos de la nouvelle constitution, ce texte d'inspiration républicaine, sinon laïque. Et effectivement, il y a quand même quelque chose qui est un peu en suspens, parce que comment est-ce qu'on maintient, sans contradiction, l'affirmation que, on l'a dit, la religion de la Tunisie est l'islam, et en même temps, le principe de la liberté de conscience.
Ça n'est ni plus ni moins... Ça n'est ni plus ni moins laïque ou pas laïque que ne l'était la constitution de Bourguiba. Mais ce qui est très important, et ce que vient de dire Nicolas, c'est que là, on a eu un vrai débat démocratique qui a pris 2 ans. Oui. Et qu'en quelque sorte, les Tunisiens se sont appropriés ce qui, du temps de Bourguiba, n'était qu'une constitution, au fond, imposée par le père de la nation. Tandis que là, il y a effectivement eu tout ce travail, tout ce débat, et finalement, cette fameux article 1, y compris la virgule qui rajoute de l'ambiguïté au texte, la Tunisie se l'est appropriée. Et ça me paraît très important. Ensuite, toutes les constitutions de tous les pays du monde recèlent de nombre d'ambiguïtés et on verra quelle sera l'application concrète. Mais c'est vrai qu'il y a eu à la fois, alors effectivement, les craintes d'Ennahda qui n'a pas du tout envie de retourner à la casse-prison, et puis un activisme de la société civile, des partis laïcs, mais surtout de la société civile, et qu'on verra culminer avec le fameux quartet qui mènera dans la dernière ligne droite les débats, qui a été salué récemment par le prix Nobel.
Oui, c'est ce que vous appelez le paradoxe tunisien. Hein. Vous dites de façon paradoxale, ce texte, donc d'inspiration républicaine sinon laïque, a été voté par une assemblée constituante qui, elle, était dominée par les islamistes, mais qui était confrontée à une société civile qui s'est battue pied à pied. Voilà bien le paradoxe tunisien. Donc entre deux tendances, une tendance religieuse et une tendance plus laïque, avec une solution de compromis qui explique que, alors je ne sais pas si ça vaut toujours, vous allez me le dire, parce qu'au moment où vous écrivez le livre, donc qui est publié en 2014, vous dites, j'y reviens parce que c'est vraiment un thème important, la transition démocratique n'est pas encore la démocratie. Alors qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui pour qu'on puisse parler de la Tunisie comme d'une démocratie qui fonctionne?
Alors bon, la problématique, elle est que moi, je trouve très bien qu'on ait donné le prix Nobel au quartet, qu'on ait voulu remettre l'accent sur cette transition exceptionnelle, etc. Et le travail qu'ils ont fait était un travail absolument remarquable pour arriver à mettre tout le monde d'accord. Et c'était très important que cette constitution soit la constitution de tout le monde, qu'elle ne soit pas votée que par un camp et imposée par un camp à l'autre. Cela dit, pour moi, une démocratie, c'est le verdict des urnes qui porte au pouvoir un camp, un parti, une coalition de partis, et puis... sur un projet, et puis en face, ceux qui militent pour un projet alternatif, qui s'opposent et qui luttent pacifiquement pour, lors de la prochaine consultation électorale, éventuellement l'emporter et à leur tour être au pouvoir. En Tunisie, probablement parce qu'il n'est pas possible pour l'instant de faire autrement compte tenu de toutes les fragilités qu'on a évoquées, on a une recherche perpétuelle du consensus parce qu'on ne veut pas cliver. On ne veut pas cliver sur des choses aussi importantes. On ne veut pas cliver entre les sécularistes et les islamo-conservateurs.
Sur la place du religieux, par exemple.
On ne veut pas de ce clivage-là parce qu'on sait qu'il est porteur il est trop explosif. Mais du coup, tant qu'on ne clive pas, tant qu'on n'a pas une majorité d'un côté et une opposition de l'autre, on n'est pas, en tout cas, dans une démocratie de type parlementaire classique. Après, est-ce qu'il faut pour la Tunisie ce passage-là, cette transition-là, parce que le pays est trop fragile pour un autre mode de gouvernement, peut-être, mais voilà, mais c'est
donc
ça.
Donc on ne peut pas prendre le risque de cliver, mais
moi,
du même coup, on ne peut pas entrer dans
pour
un
moi,
vrai
le
fonctionnement
consensus,
démocratique.
La recherche perpétuelle du consensus, ça n'est pas la démocratie.
Nicolas, oui, et du coup, autant il y a eu un formidable élan démocratique après 2011, et là, il y a eu plus de 80% de votants pour la constituante, autant aujourd'hui quand on s'éloigne des lieux de pouvoir, de Tunis, des lieux de pouvoir économique aussi, comme Sousse, Sfax, enfin de toutes ces grandes villes côtières, et qu'on va à l'intérieur du pays, il y a une désaffection totale, un scepticisme total face à la classe politique. Et d'ailleurs, les taux de participation ont été relativement faibles. Donc c'est là où la démocratie est très très fragile.
Bien sûr, bien sûr. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette discussion.
Merci à vous.
À bâton rompu. Nicolas Beau, merci beaucoup.
Merci à vous.
Dominique Lagarde, merci beaucoup. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, donc, qui est paru au Seuil en 2014, L'exception tunisienne, chronique d'une transition démocratique mouvementée, voilà, qui nous a permis de faire un peu d'histoire du temps présent, un peu de généalogie de tout ce que nous avons entendu dernièrement sur la Tunisie. Nous accompagne aujourd'hui pour les petits temps de méditation et d'écoute de l'émission de Culture d'Islam. On entend un solo de flûte que l'on doit à Chérif Mohieddin Haïdar. C'est du Ney. Petite phrase sur laquelle nous allons passer quelques minutes pour la fin de cette émission, eh bien, ce n'est pas une petite phrase, c'est un petit texte. C'est un petit texte que j'ai trouvé dans un éditorial de Jacques Julliard, un éditorial de Jacques Julliard dans le journal Marianne. C'est l'éditorial du 12 novembre 2015. Le texte de Jacques Julliard, dans son ensemble, est très intéressant. Il est intitulé « Le malheur arabe ». Et c'est un extrait de ce texte que je voudrais vous lire, en lui ajoutant simplement, peut-être ici et là, un petit commentaire. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce texte aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce que, au-delà du cas de la Tunisie, hein, et de l'exception tunisienne dont il a été question dans la première partie de cette émission, eh bien, c'est toute l'issue des printemps arabes qui est interrogée par Jacques Julliard dans ce texte. Et il est très pessimiste, vous allez le voir, et dans une certaine mesure, je partage son pessimisme, et en tout cas, je trouve son constat critique extrêmement lucide. Je lis le texte. Le fait nouveau, c'est le malheur arabe. Ou plutôt, car ce malheur date de plusieurs décennies, que ce malheur s'est mis en marche. Être arabe aujourd'hui a des degrés divers et sous des formes diverses. c'est être dominé, manipulé, abêti, méprisé, formaté, embrigadé, écrasé, et pour finir emprisonné, torturé, massacré par les deux dictatures qui règnent à tour de rôle dans la même aire géographique, la dictature militaire et la dictature islamiste. On a parlé tout à l'heure, à propos de la transition tunisienne, justement de ces deux périls conjoints, d'un ancien autoritarisme, hein, d'un État qui était à un moment donné un État policier, et puis d'un islam politique qui, même s'il s'est assoupli, selon ce que nous disait Dominique Lagarde, même s'il est par réalisme entré dans le jeu démocratique, reste néanmoins difficilement compatible avec une véritable liberté de conscience. Et Jacques Julliard continue en disant que ces deux dictatures, la dictature militaire et la dictature islamiste, aujourd'hui dans le monde arabe, se combattent à mort, mais elles sont aussi complices pour entretenir le peuple dans un état d'infantilisme et de minorité perpétuelle. Excuser la dictature militaire parce qu'elle protégerait les populations du fanatisme religieux, c'est oublier que c'est justement cette dictature qui alimente les progrès de ce fanatisme. Et traiter avec indulgence l'islam radical sous prétexte qu'il serait la religion des pauvres, ce serait excuser le national-socialisme sous prétexte qu'il était parmi d'autres le parti des ouvriers allemands. Je ne sais de ces deux dictatures laquelle est la pire. Je ne sais où est le moindre mal. Ou plutôt si, dans mon fort intérieur, je pense que le pire est la dictature religieuse. D'abord parce qu'elle est la plus longue, la plus difficile à éradiquer. Mais surtout, parce qu'elle ne se contente pas des horreurs de la contrainte étatique, elle exige de ses victimes un consentement actif, une adhésion de l'âme. Voilà, je vous laisse méditer sur ce texte de Jacques Julliard, qui est intitulé « Le malheur arabe » et je crois que c'est sans aucun mépris, bien entendu, pour la condition aujourd'hui de bien des peuples arabes. Au contraire, c'est un constat critique qui est fondé sur une véritable compassion pour ces peuples, ces populations qui sont de façon trop durable écartelées et même écrasées plutôt qu'écartelées entre des autoritarismes politiques et des autoritarismes religieux et qui tombent régulièrement de charybde en scylla, c'est-à-dire des griffes de l'un dans les griffes de l'autre sous les yeux d'un monde qui se demande à quel moment la malédiction va prendre fin. C'était Culture d'Islam par Abdennour Bidar. Aujourd'hui, nous avons reçu Nicolas Beau et Dominique Lagarde pour l'exception tunisienne, chronique d'une transition démocratique mouvementée. C'était aux éditions du Seuil à la fin de l'année 2014. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques du jour sur franceculture.fr. Je remercie pour la réalisation de cette émission Franck Lilin. Je remercie également mon attaché de production Dominique Compétissa et à la prise de son Olivier Dupré. Sur cette scansion soufie du nom Allah, je vous laisse et vous retrouverez dans quelques instants Louise Touré avec la rue des écoles. Allah.
الله.